This is Radio La. Olivier, bonsoir.
Bonsoir Lionel.
Alors on est à un premier étage. On a une fenêtre, une grande fenêtre en forme de demi-lune. Tu me confirmes ?
Tout à fait. Oui.
Et on a une vue très sympathique sur la place Gambetta. Il fait nuit. Tu as débauché. Et on est dans une ambiance. Je suppose que ça t'arrive de temps en temps entre deux portes de regarder cette vue que t'as, la chance que tu as avec cette vue et de regarder la place comme ça qui vit. Quoi.
Toute la journée, on en profite. Du lever au coucher du soleil, on est sur la place, on regarde les gens passer, la vie qui continue. Voilà, qui
inspire.
Tout à fait. Ouais.
Et là, on se croirait de l'autre côté de la Manche un peu. Hein. Qu'est-ce que t'en penses ?
C'est la brume qui te fait dire ça, oui. Tout à fait, les lumières du soir.
Bon, tu fais quand même pas mal de choses. Mais ce soir, on s'est dit, tiens, on va parler de... Quand tu étais... avant de devenir très très grand. Et quand on te disait, Olivier, tu aimerais faire quoi comme métier quand tu seras grand ? Tu te rappelles ce que tu me disais ?
Oui, tout à fait. Oui. Moi, je voulais être chirurgien. Je voulais découper de la viande et puis et réparer les morceaux comme ça. C'était un rêve d'enfant.
Réparer les morceaux.
Ah oui, oui. Pour moi, c'était magique, comme de la couture. On pouvait opérer, ouvrir, enlever, rajouter et tout. C'était une façon de d'être utile et en même temps de réparer, oui, tout à fait.
Mais chirurgien, quelque chose de précis ou en général
C'était un chirurgien généraliste. En tant qu'enfant, je n'avais pas vraiment d'idées précises sur la chirurgie. Pour moi, c'était quelque chose de...
Évident.
C'était un beau métier, ouais, c'était un beau métier. Ça,
mais ouais, c'était à quel âge que tu avais...
Moi, je vais avoir 7-8 ans, quelque chose comme ça, oui.
Donc à 7-8 ans, tu disais, voilà, ouais. Moi, c'est chirurgien.
Entre autres, ouais, mais c'était mon idée, ouais, c'était mon idée.
T'avais un plan B.
Un plan B La surprise. Plan B, ça pouvait être une surprise. C'était chirurgien.
Chirurgien, rien. Vraiment. Il n'y avait pas, sinon, pompier ou non.
Alors ça, peut-être que je l'ai eu aussi avant, mais je ne m'en souviens pas. Moi, j'étais chirurgien. Quand j'étais petit, je me disais, tu seras chirurgien. Et voilà, et la vie m'a orienté vers autre chose parce que la chirurgie, c'est des études très longues, très compliquées, et je ne me voyais pas partir là-dedans après quand j'ai compris ce que ça demandait comme...
Et tu as compris à quel âge ?
Eh bien, j'ai compris tard. Je devais avoir 17-18 ans hein, après mon bac. Au moment
tu l'as gardé longtemps, toi ?
Vraiment. Au lycée, j'ai compris quand même que j'avais un frère aîné dont les copains faisaient médecine. Je voyais bien comment ça se passait. Je me suis dit, c'est pas pour toi, ça. Et puis, par hasard, le frère d'une très bonne copine faisait kiné. Et on a parlé de ce métier. Je savais même pas que ça existait à l'époque. C'était quelque chose de complètement inconnu. Et j'ai rencontré un kiné qui m'a... consacré une journée, et alors là, j'ai eu le coup de foudre, c'était ça que je voulais faire, et du coup, ben, je me suis lancé là-dedans.
T'avais quel âge ? C'était après le bac ou quoi ?
C'était juste avant le bac, ça devait être l'année de ma première ou de ma terminale, quelque chose comme ça. Et puis, c'est première, parce qu'en fait, le concours, je l'ai passé en terminale, et ça s'est bien passé, j'ai eu mon concours, après, tout s'est enchaîné de façon évidente. Il n'y a pas eu de...
Et ce monsieur, c'était
quelque chose... Je ne le vois plus. Je ne l'ai jamais revu. Je pense souvent à lui. Mais non, je ne sais même pas comment il s'appelle. J'ai complètement oublié. C'était il y a 35 ans. Hein. C'était il y a un moment.
Mais hein. Tu as quand même eu une relation avec lui. Enfin, vous avez...
Non. On a passé juste une journée. Cette journée ensemble. Oui, juste cette journée ensemble.
Tu l'as vu une fois ?
Je l'ai vu toute une journée, une fois.
Et donc, il ne sait même pas que tu es kiné ?
Je ne pense pas. Tout à fait, ouais.
Et tu t'es jamais... Enfin, t'as jamais essayé de le...
Non, parce que c'était dans le village où habitaient mes parents. Après, j'ai fait mes études sur Paris. Puis après, après j'ai vécu ma vie. Et c'est vrai que je ne suis jamais retourné sur les... En le regrettant, mais ça ne s'est pas présenté. Je ne l'ai pas fait.
C'est comme ça.
Voilà, c'est comme ça.
Et le bonhomme, il était comment ?
Il était chaleureux, fort sympathique, nature... avec très respectueux de ses patients et en même temps il m'avait fait complètement confiance parce que ben voilà J'étais chez lui, je faisais comme je voulais.
Ouais, tu avais massé
Non, j'avais pas massé, j'avais pas travaillé puisque j'avais aucune compétence, mais j'avais observé. Et comme toujours, bon, y a des gens qui souhaitent pas être vus, donc je m'étais mis à l'écart, des choses comme ça. Mais c'était justement tout ce respect, j'avais trouvé ça. Il y avait une liberté qui dans le déplacement du cabinet, qui faisait que ben, les gens avaient le droit de dire non, et puis le kiné se permettait de me dire ben, là tu peux pas, et puis de le voir à l'aise, heureux dans son travail, ça m'a vraiment ça m'a vraiment touché, je me suis dit c'est une bonne solution.
C'est ce que tu dis, c'est touchant. On a l'impression, ça peut donner l'idée que rien qu'avec cette journée magique, j'allais dire, tu vois, tu reproduis quelque part, enfin tu fais la passation. Tu vois ce que je veux dire, tu es la nouvelle, le nouveau chaînon, la nouvelle génération, et que même sur que cette journée-là, ce que tu as vu en une seule journée, et ben ça t'est resté et tu le passes à ton tour, tu passes le témoin.
Enfin, ouais, j'espère pouvoir travailler comme il travaillait, enfin comme je l'ai ressenti en tout cas. Et on attend toujours dans la vie la personne à rencontrer qui va choisir. Je ne vais pas dire que c'est lui qui m'a fait changer mon choix de vie, mais il a participé, ouais, beaucoup. Et voilà, c'était... Après, il fallait avoir le concours, hein, ce n'était pas gagné. Mais bon, j'ai eu le concours. Et je me suis dit, bah, tout ça... J'ai même failli rater de passer mon concours, parce que le jour où j'ai dû prendre le train pour aller passer mon concours, c'était même pas une panne d'oreiller, c'était à 4h du mat et tout, on était un peu à la bourre. Et je suis arrivé dans la gare, le chef de gare allait faire partir le train, et quand il m'a vu arriver, il m'a dit « Attendez, je vous attends, n'ayez pas peur, le temps que je prenne mon billet et tout », j'ai pris mon train et j'ai pu passer mon concours. Autrement, j'aurais pas pris mon train. Donc il y a des choses comme ça qui après coup, je me suis dit « Ben ouais, voilà, c'était le chemin à suivre, ça... et puis je regrette pas, c'est sûr ».
Alors concours, à l'époque c'était un concours, maintenant c'est différent pour ceux qui s'intéresseraient au métier de kinésithérapeute. Aujourd'hui c'est...
Aujourd'hui il faut rentrer dans une à la fac de médecine, faire une première année et ensuite malgré tout passer un concours qui permet d'entrer donc dans une école de kiné en fonction de son placement. Même dans Bordeaux, il y a encore pas mal de jeunes qui s'installent et c'est agréable.
Tu donnerais quoi, excuse-moi, tu donnerais quoi, si tu avais quelques conseils à donner à un jeune qui s'intéresse, enfin, je sais pas, toi-même, tu peux d'une certaine façon, à ta façon, tu fais bosser, tu fais travailler des jeunes, des étudiants, c'est ça, en kinésithérapie? Quel conseil tu...
Le contact que j'ai avec les jeunes maintenant, c'est plus tellement dans les stages, c'est plutôt dans les remplacements. Parce qu'on a la chance, quand on part en vacances, de pouvoir se faire remplacer par des jeunes qui sont assez friands des cabinets en centre-ville, parce que c'est agréable au niveau de leur vie. Et je vois comment ils fonctionnent. Ils sont tout de suite leur formation leur permet de savoir tout de suite se débrouiller dans un cabinet comme à l'hôpital, comme dans n'importe quel centre, parce qu'on a quand même beaucoup de stages de formation pendant nos études. Et donc quand on sort de l'école, on se sent très, très sûr de soi, prêt à affronter n'importe quelle situation. Et de fait, les jeunes qui viennent en remplacement, ils sont tout de suite très à l'aise, ils se mettent tout de suite à la façon d'eux, du kiné qu'ils remplacent, ils comprennent tout de suite le mode de fonctionnement du cabinet, les systèmes informatiques, c'est plus un secret pour eux, voilà.
Ils sont autonomes, quoi.
Ah, enfin, oui, ils sont très très à l'aise.
Opérationnels.
Et même, ils amènent un petit peu leur touche, leur savoir, parce que chacun, on a chacun nos petites habitudes, nos façons de faire, et de changer de main un peu comme ça, de temps en temps, ça amène une autre couleur, une autre pratique qui est intéressante aussi pour les patients.
Ça fait combien de temps que tu opères?
Ouais, j'ai eu mon diplôme en 85.
Que tu fais de la chirurgie.
La chirurgie.
En 85, tu as eu ton
diplôme. Ouais.
J'imagine que ta façon, ton rapport au toucher, ta façon de masser, il n'est pas le même quand tu as...
Ah oui, bien sûr. Ouais. Ça, l'expérience du travail est indéniable. Y a des gens qui ont une main très très jeune et qui en ont conscience et qui l'utilisent à bon escient. Après, ça s'apprend et moi je fais partie de ces gens-là qui ont appris petit à petit avec différents types de formations, pas que dans le massage, mais aussi la façon de toucher le tissu, de comprendre comment le tissu fonctionne. Et on a cette chance parce qu'on aime ça.
Le tissu, c'est quoi ?
Le tissu, c'est tout ce qui est vivant dans le corps. Ça peut être la peau, ça peut être tout ce qui est ligaments, tendons, os, tout ce qui nous constitue, tout ce qui est liquidien aussi, tout ce qui est système nerveux et autres. Tout ce qui est vivant dans le corps, on peut avoir un toucher qui nous donne des informations. Et apprendre à recevoir ça et à en faire quelque chose après. Donc ça, c'est des années de pratique. Comme je disais, quand on aime toucher, travailler le toucher et qu'on a la chance toute la journée de ne faire que ça, on développe quand même un ressenti qui est privilégié, enfin qui est particulier, ouais. Et qui grandit avec les années.
Alors ça, c'est le toucher, le tissu, mais il y a aussi ce rapport avec l'autre, quoi.
Alors oui, voilà, tout à fait. Le rapport humain qui est très enrichissant, qui nous apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes. Je pense que c'est ça le plus fort. Sur nous-mêmes et ensuite sur l'être humain, sur son fonctionnement, tous les fonctionnements, toutes les fragilités, mais aussi toutes les richesses de chacun. Et c'est un métier qui est très enrichissant pour ça, oui, qui nous ouvre plein de connaissances, plein de compréhension de l'autre, sans dire qu'on comprend tout, mais voilà, tous les jours, on découvre des fonctionnements, des modes de pensée, voilà.
C'est un métier qui est lié à l'écoute, on va dire, non ?
Après, on le fait comme on veut, hein.
Ouais,
on peut aussi ne pas écouter les gens et garder de la distance. Moi, c'est quelque chose je l'ai sûrement fait pour ça, quelque part, je pense, hein, pour me nourrir un petit peu de tout ce que les autres pouvaient m'apporter. Donc, j'étais à l'écoute, en effet.
Alors, je te propose qu'on écoute, qu'on fasse une pause musicale.
D'accord.
Et qu'on écoute ce que tu as choisi, mm-hmm. ce que tu aimes écouter comme musique. Et après, on reviendra sur qu'est-ce que tu écoutes
comme musique.
On y va. Tu okay. nous. Alors,
t'as une choisi chanson de Claude Nougaro ouais. qui s'appelle Rime, que j'aime beaucoup pour sa poésie, comme sait faire Claude Nougaro. Et puis, pour voilà.
C'est parti.
Non, c'est pas ça.
Ah, c'est pas ça.
Non.
Le DJ, t'es pas DJ.
Non, je suis pas DJ. Ça va être ça.
C'est vrai.
J'aime la vie quand elle rime à quelque chose. J'aime les épines quand elles riment avec la rose. J'aimerais même la mort si j'en sais la cause. Rime ou prose. J'aime ma chanson quand elle rime avec ta bouche. Comme les ponts de Paris avec bateau mouche. Et la perle des pleurs avec l'œil des biches. J'aime les manèges quand ils riment avec la neige. J'aime les nains qui riment avec Blanche-Neige. Rimons, rimons tous les deux. Rimons, rimons si tu veux. Même si c'est pas des rimes riches. Ah, rimons, nous on s'en fiche. J'aime les manèges quand ils riment avec la neige. J'aime les nains qui riment avec Blanche-Neige. Rimons, rimons tous les deux. Rimons, rimons si tu veux. Même si c'est pas des rimes riches. Ah, rimons, nous on s'en fiche. J'aime la vie quand elle rime à quelque chose. J'aime les épines quand elle rime avec la rose. J'aimerais même la mort si j'en sais la cause. Rime ou prose. J'aime ma chanson quand elle rime avec ta bouche. Comme les ponts de Paris avec bateau mouche. Et la perle des pleurs avec l'œil des biches. Rime triste. J'aime les manèges quand ils riment avec la neige. J'aime les nains qui riment avec Blanche-Neige. Rimons, rimons tous les deux. Rimons, rimons si tu veux. Même si c'est pas les rimes riches, arrimons, nous on s'en fiche. J'aime la vie quand elle rime à quelque chose. J'aime les épines quand elle rime avec la rose. Rimons, rimons, belle dame. Rimons, rimons jusqu'à l'âme. Et que ma poésie rime à ta peau aussi. Rimons, rimons, belle dame. Rimons, et que ma poésie rime à ta peau aussi.
Voilà.
Et que ta poésie rime à ma peau aussi.
C'est ce que j'allais dire, histoire de peau.
Ouais, ouais, c'est ça, ouais, la peau. Le...
L'âge.
Ouais, et puis la bouche, la sensualité, le... Voilà, tout ce qui est... Tout ce qui est expression du corps. Alors moi, c'est surtout par le toucher, mais aussi ben, le fait d'écouter, le fait de dire, ce qu'on peut voir. Ouais. Les sens sont toujours en éveil dans la journée et c'est vivant.
Et puis aussi le voyage à deux aussi, dans cette chanson-là. Enfin,
oui.
Qui est riche.
Arrimons, nous on s'en fiche.
Alors, on était, ouais, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure ? On parlait d'écoute.
Ouais. L'écoute du tissu.
le tissu, tu. Alors, est-ce que, comme on disait tout à l'heure, le métier, il évolue. Mm-hmm. Enfin, ton rapport avec l'expérience évolue. Est-ce que tu as fait des démarches, par exemple ? Est-ce que tu as travaillé dans d'autres milieux que ton cabinet ? Est-ce que tu es allé vers d'autres techniques?
Alors, en tant que kiné, on est très consommateur de formation continue. On a plein de choses qui nous sont proposées avec des horizons très différents parce que on est tout en étant une spécialité en tant qu'auxiliaire médical, on a quand même la possibilité de travailler plus sur des problèmes respiratoires ou cardiovasculaires ou articulaires ou sur de la détente, sur du bien-être, sur du confort aussi. Et donc, c'est toujours intéressant d'aller voir ce que d'autres techniques nous proposent pour alimenter son quotidien dans la pratique, parce qu'autrement, on tourne un peu en rond, on a tendance à toujours utiliser les mêmes choses, je pense. Donc, il faut savoir se nourrir pour se remettre en question et puis faire face à des choses, à des situations de, entre guillemets, de blocage, où on ne sait pas quoi faire, on est embêté. Qu'est-ce qu'on peut apporter au patient ?
Est-ce que tu as un exemple à donner comme ça ?
Ah ben, oui, un exemple, quelque chose qui est très connu aujourd'hui, c'est l'ostéopathie. Moi, je ne suis pas ostéopathe, mais dans le cabinet, j'ai un confrère qui est ostéopathe et qui m'avait conseillé de faire une formation avec un monsieur qui s'appelle Raymond Soyer, qui est un kiné, qui fait de la mobilisation articulaire, dite manœuvre ostéopathique, que j'ai fait et qui m'a permis, sans faire de l'ostéopathie, mais d'approcher ces techniques de mobilisation articulaire qui allaient tout à fait dans mon sens de la mobilisation, c'est-à-dire atraumatique, douce, à l'écoute, surtout à l'écoute. C'est ce qu'on a au bout des doigts, on écoute vraiment ce qui se passe et Avant ça, j'ai fait une formation de micro-kiné, qui est une technique basée aussi sur l'écoute tissulaire entre ses deux doigts. Et donc, tout ça, c'était un petit peu dans cette même logique. Et voilà, ça venait nourrir ma pratique du toucher, du massage aussi, parce qu'après, on ne masse pas de la même façon. Quand on apprend à mobiliser une articulation d'une certaine façon, ben, on peut l'intégrer au massage. Tout ça, c'est... Voilà, par exemple.
Tu t'affines.
Oui, sûrement, j'espère.
Au fil des années, tu te connais de mieux en mieux. Le rapport avec les patients.
Oui, les choses parfois deviennent plus évidentes, c'est vrai. C'est peut-être une connaissance intuitive qui se développe, mais c'est quand même basé sur une technique d'apprentissage, sur des choses qui sont sérieuses, j'allais dire, c'est pas que du pifomètre, mais on peut se permettre après dans sa pratique de laisser parler son ressenti et de comprendre les gens, de leur apporter de façon simple comme ça, comme si on allait directement à l'endroit où il faut aller parce que ben, nos mains nous y ont emmenés et hop, ça...
Ouais, il faut suivre, tu te laisses guider par tes mains. C'est...
Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est les mains qui servent de connexion entre le kiné et le patient, c'est sûr.
Une journée type, chez toi, ça se passe comment ? Qu'est-ce que tu fais ?
Ouais. Mes journées type, elles ont un petit peu évolué, parce que quand j'étais plus jeune, pour moi, commencer la journée par des domiciles, c'était important. De me déplacer chez les gens, chez les personnes âgées qui ne pouvaient pas se déplacer, c'était important, ça faisait un peu partie de ma mission. Là aussi pour apporter le soin chez les personnes âgées, donc, ou pas d'ailleurs, mais enfin des personnes à domicile. Donc là, en général, la matinée se passait comme ça. Après, il y avait la pause déjeuner et l'après-midi se passait au cabinet. Et puis maintenant, je commence à avoir des cheveux blancs. Alors j'ai changé un peu ma pratique. J'ai arrêté de faire des domiciles. Il y a des gens dans le cabinet qui sont plus jeunes que moi qui ont pris la relève. Et je suis au cabinet toute la journée. Donc j'arrive le matin, 8h30, j'ouvre les portes, je suis souvent le premier, parce que ben, mes enfants sont partis de la maison, mon épouse travaille, on commence la journée tôt. Donc je peux commencer la journée tôt. Enfin, pour moi c'est tôt, 8h30, peut-être que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais pour moi c'est déjà pas mal. Et voilà, on ouvre le cabinet, en ce moment on met le chauffage parce que le temps est un peu frais. Voilà, on vérifie que tout fonctionne bien pour accueillir les patients, la musique dans la salle de gym. Et puis, les premiers patients arrivent, on les accueille. Quand c'est des nouveaux, il faut faire un dossier. Donc, c'est un petit moment passé sur l'ordinateur à faire de l'administratif, simplement rentrer les coordonnées du patient, les ordonnances et tout ça. Puis ensuite, faire un bilan quand même pour savoir un petit peu où on va, au moins un bilan théorique, avant de passer au bilan plus pratique et palpatoire qu'on fera ensuite. Et puis, en général, on consacre une demi-heure par patient. Et donc, toutes les demi-heures, il y a un nouveau patient qui entre dans le cabinet et qu'on accueille. Et voilà, de fil en aiguille, la journée se passe.
Alors quand tu dis on consacre, ça se passe comment ?
Alors consacrer...
Le patient arrive, il fait des exercices,
Alors ça dépend un petit peu de l'évolution du traitement. En général, la première séance, donc il y a ce premier contact administratif et technique un peu, où on fait un bilan, qu'on fait ensuite, on dirige le patient dans une petite pièce, on appelle ça des box. C'est pas très fun, mais enfin c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc dans cette petite pièce, ou petit salon, j'ai une patiente qui a appelé ça petit salon, c'était très joli. Mais... Donc le petit salon, et là, en fonction de la pathologie, bon, la personne se met à l'aise, elle se déshabille plus ou moins en fonction de la région à explorer. Là, on fait un bilan plus palpatoire, plus technique au niveau éventuellement de la mobilité, parce que kinésithérapie, ça veut quand même dire soigner le mouvement, soigner par le mouvement. Kinésie, c'est le mouvement. Donc, on est quand même là pour rétablir un mouvement, parce que quand il y a un mouvement, il y a vie, et quand il y a vie, ben, le tissu fonctionne. Donc, voilà, on fait un petit bilan de cette mécanique. Et puis ensuite, ben, commencent les soins en fonction de ce bilan. On a des objectifs à atteindre et on commence à établir un plan de traitement.
Donc tu as deux volets là. Tu as le volet j'allais dire rééducation, exercice physique.
Qui vient souvent après, en effet, parce que pour consolider tout ça, quand on a redonné du mouvement à une articulation, par exemple, quand on a libéré les tensions, quand l'inflammation est réduite, voilà, quand la personne est prête à faire des exercices, pour consolider le travail qu'on a fait, on lui propose voilà, des exercices progressifs. Et donc, c'est la deuxième partie de la rééducation.
La première partie, c'est le...
C'est plus un travail individuel.
Massage.
Massage, entre autres, oui, ça peut être massage. Dans les petits salons, donc, comme je disais tout à l'heure, ça peut être des massages, ça peut être des étirements, ça peut être de la mobilisation articulaire, justement, pour recentrer les articulations. Ça peut être de la réinformation tissulaire, en ce qui me concerne, où justement, on essaie de trouver des mémoires tissulaires qui empêchent le fonctionnement correct des tissus et donc aider le corps à s'en débarrasser pour mieux aller. Et quand le patient va mieux, ben on passe à une étape suivante. La kinésithérapie, ça ne se fait pas sur une ou deux séances. En général, les gens viennent avec une série de 10 séances, 15 séances, 20 séances. J'ai une patiente dernièrement qui me disait « Oh, moi, toutes mes copines, elles passent un temps fou chez leur kiné. Moi, je n'ai pas d'intention. Hein. Surtout, je veux que ça soit vite fait. Hein. » Alors, je me dis « Il n'y a pas de souci, moi. C'est... On n'est pas là pour garder les gens. » Après, il faut accepter que c'est pas un soin d'urgence. C'est un soin qui demande du temps. C'est un soin qui demande au corps d'entendre, au corps d'avancer, d'évoluer, de progresser. Et à chacun sa vitesse. Il y a des gens qui comprennent en deux séances. Il y en a, il leur faut 20 séances. Ça, c'est pas quantifiable. C'est pas comment dire. Si c'est quantifiable, mais c'est pas systématique. On peut pas dire c'est 10 séances point barre.
Merci. Est-ce qu'on peut dire que dans ton métier, tu as, je vais dire, un rapport particulier avec les personnes âgées ?
Alors, oui, avec les personnes âgées. Maintenant, les personnes âgées, je dirais, il y a différents âges de personnes âgées. Parce que quand j'ai commencé... J'avais l'impression, maintenant j'étais jeune, mais j'avais l'impression qu'à 80 ans, c'était déjà une personne très âgée, dépendante. Et aujourd'hui, à 80 ans, les gens, ils sont encore très en forme. Donc, je dirais qu'à partir de 90 ans, et encore, on a des patients de 92, 95 ans qui viennent au cabinet et qui sont capables... Ils viennent, donc ils ont des soucis malgré tout de vieillissement, mais ils sont quand même capables... D'avoir une activité physique, de reproduire des exercices, de faire... Voilà. Donc, ils ne sont pas complètement débentants. Ça, c'est parce que je ne fais plus de domicile. Quand j'allais à domicile, on rencontrait des gens plus dépendants. Et c'est vrai que de rentrer dans leur intimité, rentrer chez eux, c'était nous faire confiance. Et les rapports étaient souvent très affectés. Et il y avait une dimension qui était particulière. D'avoir arrêté les domiciles, ça m'a demandé de dire au revoir à tout le monde, c'est vrai. Et les gens n'ont pas compris pourquoi je partais, d'ailleurs. Et c'était une séparation, hein, c'est vrai. Mais parce qu'on avait créé...
Autant pour eux que pour toi ?
Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. J'y pense encore, hein, aux gens que je voyais à domicile. J'ai certains noms que j'ai gardés dans mon fichier, comme ça me permet, quand je les vois passer, de me dire, tiens, oui, tu te souviens de madame ou monsieur, voilà, et des moments passés. Non, il y a des moments très, très forts, hein, c'est sûr.
Dans ton rapport à tes patients, tu... et au corps de tes patients, il y a une relation qui se construit. Enfin, est-ce que tu sépares le corps de la personnalité de la personne que tu as en face de toi ? Question.
Alors,
comment ça se passe, en fait ?
Oui. Moi, pour moi, un patient, c'est pas un corps, c'est une personne. Cette personne, elle vient avec son corps, son tissu vivant, je dirais, hein, sa matière. Puis il n'y a pas que la matière, il y a tout ce qui est... toute son histoire, tout ce qu'elle a reçu et tout ça. Et donc c'est tout ça qu'on accueille. Il y a ce qu'elle a vécu dans la journée. Elle a le droit d'être de mauvaise humeur aussi. Hein. Ça peut arriver, une journée stressante. Elle n'a pas envie de sourire. Elle n'a pas envie de sourire, il n'y a pas de souci. Et donc, c'est une personne dans son entièreté. Après, en tant que kinésithérapeute, c'est sûr que je m'intéresse au corps, avant tout. Et après, tout ce qui est émotion, je ne sais pas si on peut dire, et l'âme de la personne, enfin, tout ce qui fait sa partie non matière, elle interfère forcément et on ne peut pas ne pas être à l'écoute, c'est sûr. Et notre métier nous apprend ça, parce que dans les études, en kiné, je ne sais pas aujourd'hui, mais enfin, à mon époque, en tout cas, on ne faisait aucun apprentissage de la psychologie des gens.
Ce qui est quand même assez...
Ce qui peut paraître important, hein, c'est sûr. Mais bon, le fait d'être attentionné, d'être bienveillant, ça nous apprend tout ça. On fait des bêtises. Et puis après on apprend sur soi, et puis on comprend. C'est difficile de ne pas faire un effet miroir. Il y a des gens qui nous renvoient des images qui sont très parlantes, et on entend comment est-ce qu'ils résolvent leurs problèmes, et comment est-ce que nous on gère la situation. Ça c'est pour le côté, je dirais, non matériel, et puis non matière, et puis après, nous on s'occupe quand même avant tout du corps, et on essaie de faire remonter le bien-être du corps vers un bien-être de l'esprit, donc retrouver confiance en soi, en son physique, apprendre à s'aimer, à prendre soin de soi, tout ça c'est aussi important pour que la personne se sente bien. Et on peut aussi, autant le psychologique peut avoir une influence sur le corps, et c'est vrai qu'on peut faire, ce lien, mais autant je pense le corps peut aussi avoir une influence sur le psychologique, et donc voilà, il faut essayer de jouer avec ces deux paramètres, sachant que notre métier c'est quand même plus le corps que la psychologie, quoi. On n'est pas des psychologues, je dirais, de métier. Voilà, on est à l'écoute, on peut entendre, on a des expériences qui nous permettent éventuellement d'avoir des mots justes parfois, mais c'est pas notre métier, c'est sûr. Nous, on travaille le corps, on essaie de faire en sorte que les gens soient bien dans leur corps, aiment leur corps pour aller mieux après. Après, quand quelqu'un a fait une entorse de cheville parce qu'il a raté une marche, il n'y a pas tous ces problèmes, on est d'accord. Hein. C'est plus simple. Et quand on travaille avec des sportifs, il y a la dimension physique très forte, mais il y a aussi le coaching aussi psychologique, parce que c'est ça, avoir confiance en son corps. Quand on a perdu des aptitudes, on se dit, mais on ne va jamais les retrouver. Donc, il faut rétablir ça. Donc, ça aussi, c'est réapprendre à utiliser son corps avec des exercices progressifs, avec un coaching un peu rapproché qui permet aux gens de se dire, je peux aller courir et puis retrouver toutes ces aptitudes antérieures.
Alors, merci, merci pour tes mots. Du coup, le parler est très très important dans ton métier, à t'écouter.
Je pense.
La façon de parler à...
La façon de dire les choses, oui.
Que ça soit un sportif, comme tu peux dire, pour le coacher, entre guillemets.
Oui, tout à fait.
On reprenne confiance en soi. Enfin, il y a une façon de parler qui est particulière. Et à chaque personne, tu t'adaptes.
Alors ça reste, dans mon cas, assez intuitif. L'expérience aidant. Après, je pense qu'on peut aussi, sa propre expérience dans le sport ou sa propre expérience dans la vie de tous les jours, nous apprend à nous adresser aux gens. Après, on peut faire des formations aussi. Hein. Il y a des formations, que ça soit de la PNL ou que ça soit de la... En ce moment, mes patients rigolent parce que je bookine un livre sur le... Mais je n'ai pas retrouvé le titre.
L'hypnose ?
Non, pas l'hypnose, c'est la communication non violente, voilà, tout à fait, avec des exercices à faire qui sont pas piqués des vers. Et donc, c'est tout un exercice, mais c'est aussi prendre conscience que les mots ont un poids et qu'on peut pas dire n'importe comment les choses aux gens, et qu'en effet... Parfois, on a des mots malheureux qu'on peut regretter, mais bon, ben, voilà. Mais je pense qu'on, tant qu'on reste dans la bienveillance, quand on reste justement dans la non-violence, non-violence ne veut pas dire qu'il ne faut pas secouer les gens de parfois, hein, mais c'est la façon de s'adresser à eux, non culpabilisante. Voilà, il y a une façon de s'adresser aux gens.
Ça fait une heure qu'on discute.
En effet.
Et qu'on écoute de la musique
aussi.
On a dit pas mal de choses. Hein. Et est-ce que toi, je te laisse le patron, quoi. Est-ce que tu as quelque chose que tu n'as pas dit et que tu aimerais dire à n'importe qui ? Tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de... Bah, tu dis, bah non, il n'y a rien qui me vient, c'est naturel. Donc tu peux très bien dire ça. À ce moment-là, je t'aiderai pour...
Là, comme ça, tout de suite, on a déjà dit beaucoup de choses, hein, c'est vrai.
Alors, Olivier,
oui.
Est-ce que tu as, parmi ces quelques années d'expérience, si je te demandais, tiens, est-ce que tu as une anecdote à me donner, un truc... Enfin, ah, il a déjà l'idée, il sait déjà ce
que... Non, j'ai pas l'idée, mais je dis, le vache, il m'a eu. Son anecdote, il la veut. Oh, des anecdotes, il y en aurait plein, que ça soit des anecdotes au travers de la séduction, que ça
ah
soit...
Bon
ah oui, forcément. Que ça soit...
Non, on va pas aller sur ce terrain.
Non, mais justement, ce qui me vient là tout de suite, anecdote ou pas, enfin, c'était Marguerite, quand j'allais la voir, c'était une vieille dame qui m'accueillait toujours chez elle, qui était toujours contente. C'était un plaisir pour moi d'aller la voir parce que c'était une énergie positive. Je me nourrissais presque plus d'aller la voir que peut-être ce que je pouvais lui apporter. Alors c'est peut-être pas une anecdote, mais c'est l'image qui me vient comme ça de...
Non, t'as encore les yeux qui brillent,
ouais, voilà.
Mais pas de la même façon que quand tu parles de la musique ou quoi,
ouais, ouais.
Mais c'est une autre lumière, elle est belle.
Ouais.
Olivier, merci à toi.
Merci à toi, Lionel.
À bientôt.
À plus.